Alleluia. 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 Alleluia.
Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui. Il déclara à son sujet : voici un véritable fils d'Israël. Il n'y a aucune ruse en lui. Nathanaël lui demande : mais d'où me connais-tu ? Jésus lui répondit : avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, c'est moi qui t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Jésus répondit : je te dis que c'est moi qui t'ai vu sous le figuier. Et c'est à cause de ça que tu crois. Mais tu verras des choses beaucoup plus grandes encore. Et Jésus ajouta ceci : en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Amen. dire au pape que c'est nous qui avons planté les trois croix au centre de la France. La croix, en fait, parce qu'au milieu des trois, il y a une plus grande qui se dresse et qui fait le centre de la France. Sainte Thérèse d'enfant Jésus avait dit « Je voudrais rester sur la terre pour planter la croix glorieuse sur notre terre infidèle, sur la France. » Marthe aussi disait ça. Et on pourra dire, on convoque le Saint-Père, disons oui, être Saint-Père. On vous convoque pour la messe de la croix glorieuse. C'est dans la croix glorieuse qu'on demande pardon, hein, pour ce coup-ci, mais je m'aime. Et je voulais juste m'arrêter un peu avec vous, pas longtemps, parce que on est quand même fatigué. On est toujours fatigué, nous. Ah, c'est vrai. Toujours très fatigué. C'est pas grave. Mais on a pris l'habitude d'être très fatigué. Mais on continue quand même, comme si on n'était pas fatigué. Tranquillement, sereinement, comme si on n'était pas énervé. On ne tient pas compte de ça, c'est pas ça. Jésus qui dit ça à Nathanaël, on en a parlé déjà ce matin, c'est beau. Hein? On a médité, on a compris, on a saisi. Mais tu verras une chose beaucoup plus grande encore, hein? Tu verras. Les anges qui descendent au-dessus et qui montent du Fils de l'homme. Mais juste avant qu'il ait dit ça, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a dit une phrase, je ne sais pas si l'un d'entre vous se rappelle ce qu'il a dit juste avant, les cinq mots qui précèdent ça. Ah, je vous prends au piège, hein?
Tu crois parce que tu m'as vu sous le figuier?
Non, 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 c'est pas les mots qui précèdent ça, c'était deux versets précédents. Oui, non, il dit, vous le savez pas. Attends, je vais vous le dire, je vais pas vous humilier. en vérité, je vous le dis, vous verrez des cieux ouverts. Et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Donc les cinq mots qui précèdent, c'est que vous verrez les cieux ouverts. Oui, c'est beau ça. Demandez au Saint-Esprit. Si mon frère Bruno était là, il dirait, il faut faire la mendication de la Lectio Divina. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il dit? Vous verrez les cieux ouverts juste avant, les anges descendent au-dessus du Fils de l'homme. Et on demande à ce moment-là au Saint-Esprit, au ciel et au Saint aussi, de nous faire entrevoir pourquoi il dit ça juste avant. C'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nourrir la parole de Dieu, c'est ça. Et si les cieux se sont ouverts, vous voyez, je sais pas, moi, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, à la suite de ce qu'on a dit ce matin, hein, c'est que les anges, au spectacle de la passion de Jésus, au spectacle de la détresse de la paternité agréée de Dieu, détresse de son amour, inconditionnel. Sa fécondité d'amour éternel. Toute fécondité d'amour dans l'amour. Et par principe, par nature, c'est dans la nature de l'amour d'être extraordinairement vulnérable. Et au spectacle de la passion, de Dieu dans l'agneau. Les anges sont. Ça établit en eux une commotion qui leur fait comprendre pourquoi leur nature angélique est aussi élevée. C'est pour qu'elle puisse descendre jusqu'en bas. et suivre Dieu dans l'agneau partout où il va. Et à ce moment-là, ils deviennent chrétiens quand ils remontent. Les anges qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Et du coup, ils remontent dans leur finalité éternelle de gloire. Ils deviennent chrétiens. Les anges deviennent chrétiens. Et c'est pour ça que le ciel s'ouvre. C'est-à-dire que l'union hypostatique déchirée, appartient à toute leur intériorité. Quoi. Ils portent l'union hypostatique déchirée de Dieu qui se fait agneau dans leur substance même. Vous comprenez? C'est pour ça. Vous verrez en vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux qui se déchirent. Les anges glorieux sont simplement descendus dans la plus grande bassesse de Dieu. Ils ont suivi l'agneau. Et ils sont plongés. Et ils sont devenus angéliquement cette union hypostatique des cieux de Jésus. Le ciel s'est déchiré. Le ciel, c'est le monde angélique. Hein. C'est le monde spirituel pur. Ils sont devenus chrétiens. C'est la différence entre Saint-Michel-Archange et Lucifer. Lucifer n'est pas chrétien. Il n'aime pas la croix. Il n'aime pas regarder l'amour fragile, l'amour blessé, l'amour dévasté en Dieu. Il n'aime pas ça. Les hommes aujourd'hui ne demandent pas pardon. Les papes, les évêques n'ont jamais dit la messe. Je dis bien jamais, pas une seule fois. Devant l'amour dévasté, la paternité de Dieu depuis 12 ans. Pas un seul, même ceux qui savent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ça? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de stupéfiant, atterrant? Regardez nos petits soucis. Alors qu'il y a ça. Mobiliser toutes nos forces pour défendre l'Église sur un point d'une bêtise à faire pleurer les éléphants. Alors qu'il y a ça, c'est pour ça qu'on convoque, voyez, le Saint-Père. Maintenant qu'il est mort, il sait. On convoque les autres papes. La convocation de tous les papes, de tous les successeurs de Pierre, Pierre à Pierre près, après Pierre. C'est fort, vous savez ça. Et donc les anges, quand ils descendent comme ça, dans notre foi, et qui leur donne en nourriture la dévastation dans l'agneau, qui veut se fondre dans la dévastation de l'amour éternel. C'est quelque chose qui rétablit en nous une commotion très très forte. Et je pense qu'on doit pouvoir, Jésus le dit, qu'est-ce qu'il dit avant les cinq mots dont je vous ai parlé? Il a dit, alors quand même, vous exagérez si vous ne vous rappelez pas. Les yeux ouverts, les yeux déchirés, les yeux ouverts. Avec les anges, juste avant, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez. C'est-à-dire, vous contemplerez. Vous verrez. En vérité, c'est-à-dire dans le Verbe de Dieu, répété deux fois, Saint Vincent de Paul expliquait beaucoup ça. Dès que vous avez en vérité, je vous le dis, ça concerne la transverbération glorifiée. Donc la blessure, l'ouverture, la manifestation d'amour dans le Verbe de Dieu, redupliqué dans l'amour et la manifestation de l'amour blessé dans le cœur du Père. Alors c'est en vérité, je vous le dis. Vous verrez, si on rentre dans la vie contemplative surnaturelle, le mariage spirituel avec Jésus, si on rentre dans l'Église catholique, avec le Saint-Père, avec l'Immaculé et avec le fruit de l'Eucharistie, et bien à ce moment-là, forcément, on voit cette dévastation, ce méchaume. Méchaume, ça veut dire dévastation. Pardon. Méchaume, ça veut dire dévastation. Cette dévastation quasi-éternelle, quasi-ingrée. On la voit. Quand on est dans le mariage spirituel chrétien, on est très sensible à ça et on le voit. Vous verrez des cieux déchirés, des cieux qui s'ouvrent. On le dit quelquefois dans la prière de la nuit. Quand j'arrive au sommet de pur amour, le voile se déchire et je vois le bassin de ce qui est éternel, incréé à l'intérieur de la nature substantielle de Dieu. Et j'y rentre pour pouvoir voir. Et je vois quoi? Une dévastation. Si je ne la vois pas, c'est que c'est pas bien. Je peux aussi considérer que je ne la vois pas, mais que un jour je la verrai, que je veux bien la voir, ou que je désire la voir. En tout cas, la raison, c'est une soif de contemplation et une soif de vision. J'ai soif de voir, plutôt que d'être toujours le nez dans mon fumier, est-ce que je ne suis pas mieux d'avoir soif de désir de voir Dieu dans ce qui vit d'amour? Les préoccupations qu'on a, vous regardez, le temps qu'on passe à nos préoccupations dans notre vie. Voilà, on fait une somme comme ça, une très très belle audit, ça. Le nombre d'heures qu'on passe. Et le désir qu'on a de voir Dieu dans ce qu'il vit en sa nature, son amour éternel, son amour incréé, est inconditionnel et sans fin. Et nous avons pénétré en lui avec Marie. Et nous appartenons à Marie, et donc quelque part l'Église appartient aussi. Et elle pénètre l'intérieur parce qu'elle est la mère divine de Dieu. Et c'est pour ça que c'est terrible de s'écouter mes chemins à cause de Marie. Parce que depuis que Marie a pénétré en Dieu, elle a pénétré dans l'opération divine éternelle de Dieu en lui-même. Elle est mère de Dieu. Et l'Église est en Marie. Et c'est pour ça que le psychosime soi-même est possible. Et que c'est pas rien comme dévastation. Et ça, il faut le voir, évidemment, si on ne voit pas, si on ne contemple pas le mystère de Marie, si on ne contemple pas le mystère de la compassion de Marie, on ne le voit pas, ça. Mais après tout, on se dit, oh, pff. C'est un peu pour ça qu'on vient ici, on vient ici parce que moi on sait pas. Oh pardon. C'est pour ça qu'on vient ici, parce que du coup on se sépare de ce monde où on met son nez dans les trucs. Des âneries, quoi. Alors qu'on a été créé pour ça, les anges aussi ont trouvé leur finalité. Et puis les cieux se sont déchirés. Et on va voir ça en vérité je vous le dis. Vous verrez les cieux qui se déchirent. Le monde angélique qui est devenu chrétien et qui, je pense moi, à cause justement de l'heure que nous vivons, ainsi que c'est mes semaines, à cause aussi peut-être de la... de la célébration, parce que c'est un écho extraordinaire quand on dit en vérité, c'est la dévastation dans la dans la vie intérieure de l'épousée, enfin de Jésus, qui rejoint, qui s'embrasse, qui s'engloutit dans la dévastation de l'amour inconditionnel, très très fragile et déployé de l'époux, quoi. Et les deux, ça fait en vérité, je vous le dis. Là, quand les deux se conjoignent, là, c'est quelque chose de très fort. Il s'établit à ce moment-là une purification de la gloire angélique qui fait une profondeur de 1600 stades, vous voyez, c'est marqué dans l'Apocalypse. 40 à la puissance de... une purification à la puissance du Verbe. En vérité, je vous le dis. Et dans cette immense cuve, et vous reconnaissez tout de suite la fécondité de Joseph, Saint Joseph, fils de Marie, à l'intérieur de la sainteté méritoire de la fin du monde dans les sceaux d'Apocalypse, qui engendre cela et qui permettent aux anges d'aller jusqu'à la transverbération, la purification de leur gloire dans l'agneau. Et le ciel se déchire. Le ciel de la gloire angélique se déchire. Il y a une purification qui est tellement grande que du coup, on peut passer aussi, non seulement à travers l'union hypostatique des cieux de Jésus, mais aussi à travers le voile qui se déchire dans le ciel angélique glorieux, qui est devenu chrétien, qui est devenu indivisiblement la même union hypostatique, mais sous le mode angélique glorieux. Vous comprenez bien que ça s'associe immédiatement au mystère de compassion glorifiée de Marie. Et que ça, c'est objet de contemplation. La vie de la foi est une vie contemplative. C'est bien de savoir ça, je trouve. C'est bien de savoir que dans la Jérusalem spirituelle dans laquelle nous allons entrer dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas, et bien ce sera là où Dieu nous attend, c'est dans une vie contemplative, surnaturelle, virginale, voilà, de même qualité que celle du mystère de compassion que Marie a exprimé elle-même, et exprime encore en le faisant dégouliner. Intérieur de notre âme en oraison, dans l'émanation de cristal et de diamant, la paternité de Dieu exprimée dans la matière vivante de son immaculée conception, notre corps spirituel mis en place par le Saint-Père dans le monde nouveau du règne du Sacré-Cœur. Et à ce moment-là, les cœurs unis Jésus, Marie, Joseph aussi sont déchirés. Le pur amour est déchiré. Ça fait quand même trois... en un endroit. Et du coup, et c'est comme ça qu'on peut échapper. Que l'ensemble de la création d'ailleurs va échapper à l'intérieur de Dieu lui-même, hein, et devenir source avec Marie de mort et de résurrection pour tous les temps. C'est notre vocation, hein. C'est Saint Jean qui nous montre bien que c'est notre vocation. C'est ça. On n'a pas une vocation, une mission sur la terre à ras du sol. C'est une punition qui a été donnée à Satan d'être un serpent qui bouffe le sol. Qui serpente comme ça la poussière. Il ne s'occupe que des choses à ras du sol. Mais non, on a été créé comme une contemplation brûlante. Et j'allais dire principielle quand même. Principielle. Marie est modèle de notre foi. Voilà. Tout ça pour dire quoi que. Oui, bon, C'est beau, mais bon. Je ne suis pas encore venu jusqu'à maintenant, donc... je ne m'y mettrai jamais. Puisque je ne me suis pas mis jusqu'à maintenant, donc je ne m'y mettrai jamais. Le père Patrick dit ça, mais... C'est beau, ça c'est beau. Belle perspective. On est d'accord. Mais jusqu'à maintenant, je ne me suis pas mis. Bon. Bon, ben, je ne m'y mettrai jamais. Très mauvaise conclusion. Je m'y mettrai. Je m'y laisserai mettre. Parce que celui qui tient cet arbre, déracine-toi de là et transplante-toi dans la mer. L'arbre se transplante dans la mer. Et donc l'arbre de vie qui est planté sur le sol solide de la résurrection, hein, eh bien je peux par la foi l'arracher, transplanter dans tous les temps, dans tous les lieux. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, et bien donc très bien, et bien on le fera avec la grâce de Dieu. Après tout, pourquoi pas. Alors on fait pas des choses qui nous dépassent, attention, hein. D'ailleurs, ça le dit le psaume le dit, je ne prétends à rien de sublime ou de quoi que ce soit qui me dépasse, non, je garde ma âme. Tout abandonné. Donné, abandonné, silencieuse, comme un enfant contre sa mère. Je veux m'associer et m'enfoncer dans le mystère de Marie, dans la présence de Marie, dans le mystère de compassion de Marie. Je veux m'enfoncer en elle, je veux descendre avec elle jusqu'à sa conception, jusqu'à son mystère de compassion avant sa naissance. Je veux rentrer en elle, jusque dans sa source. Je veux être avec elle. Et je veux être, voir avec elle ce qui se produit lorsque il y a l'étreinte de Dieu au fond d'elle-même. Et lorsque Dieu lui prend sa main gauche au-dessus de sa tête, c'est-à-dire l'élève à ce qu'il voit lui-même, lorsqu'il devient agneau. Et le voyant d'ailleurs, il s'incarne immédiatement en elle. Il l'assume, voilà pour le Père, il s'incarne, voilà pour le Fils. Et il réalise l'amour inconditionnel, malgré toute la fragilité que représente l'amour. Non, je ne suis ni grande merveille, ni sublimité qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale, silencieuse, et je m'enfonce abandonnée. Et cette union, c'est pas une disparition, c'est une union d'abandon et de lumière. Marie, à l'intérieur de mon âme, s'exprime. Et moi, à l'intérieur de ma Marie, je ne m'exprime plus. Et il n'y a plus qu'une seule expression. Et je m'habitue à faire ça, et à ce moment-là, oui, je vois des choses. Je vois ce que Dieu fait en elle. Je le vois, vous verrez les cieux ouverts, déchirés. Vous le verrez, vous le contemplerez. L'oraison, c'est une contemplation. L'oraison, c'est une vie contemplative. De réalité très précise, très simple, très divine, très extraordinaire, très féconde, très juste, très sublime, très agile, très subtile. très fragile, c'est vrai aussi, très délicate, mais dont les contours sont extrêmement précis, les odeurs extrêmement faciles à reconnaître, les parfums, et la liquéfaction qui correspond permet à notre esprit de voir vraiment le réel divin, la vérité toute pure, et moi je cherche la vérité. En vérité, je vous le dis. C'est dommage, hein, je vous assure, c'est dommage. Que dans les nouvelles traductions liturgiques, on ne dit plus jamais en vérité, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Pourquoi ? Pourquoi ? Cette falsification de la traduction du Nouveau Testament, c'est effroyable. Vous verrez dans les églises, quand vous lisez l'évangile, on ne dira pas en vérité, je vous le dis. C'est marqué autre chose. Amen, amen. Moi, quand je vous l'ai lu, je dis en vérité, parce que je suis revenu au texte. Mais c'est pas du tout pareil de dire amen, amen, je vous le dis. Et puis en vérité, je vous le dis. Je sais pas, vous n'aviez pas pensé à ça, si, non? C'est effroyable d'effacer la révélation, d'effacer l'évangile, de racler l'évangile au niveau de la poussière du sol, au niveau de ma comptabilité. Quoi. C'est terrible. Bon, il faut vraiment restaurer la lumière. Et il faut restaurer notre vie contemplative pour la... Il ne faut pas la restaurer, il faut s'y mettre tout le temps. Et... Hop. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est pas j'ai remarqué que...
C'est bon, on n'a pas trouvé le gamin de l'intérieur.
Voilà, on va célébrer la messe, mais vous voyez, regardez, si cette messe du soir, on pouvait être... un tout petit peu plus contemplatif, un tout petit peu plus mystique. Ce serait bien. Angélique, voyez, on s'enfonce, on suit Dieu, et c'est Dieu descend, et Dieu est agneau, et on devient cet amour délicat, fragilisé, ouvert, inconditionnel, déchiré, offert jusqu'à la fin du monde, inscrit à l'intérieur. Mystère de compassion glorifiée, actuée par l'Esprit Saint dans sa aspiration passive, c'est plutôt ciel. Pardon, excusez-moi, je vous ai interrogé là. On va arrêter, d'accord. Parce que notre vie, quand même, chrétienne, elle est spirituelle, vous comprenez ? C'est terrible, nous on vit en France et on a été déformés, disons, hein, à cause de Descartes. Et on pense que c'est parce qu'on pense comme des chrétiens, c'est la pensée. La pensée n'a jamais fait un chrétien. Alors on discute et on échange nos pensées chrétiennes. Je m'excuse, mais autant mélanger de la bouillie avec du vomi et de la merde. La pensée, c'est pas chrétien. La contemplation, c'est chrétien.
La comtesse alors
peut être chrétienne. À cause de Descartes, on a le pensé, ce qu'on pense, ce qu'on découvre. Ces mots qui nous apparaissent dans la vie chrétienne. Nos pensées. Mais nos pensées, c'est nul. Mais la vie contemplative, dans l'union hypostatique de Jésus désiré, hein, c'est autre chose. La vie contemplative, il faut voir Dieu. Ah oui, pardon. Ah oui, excusez-moi. Oui. Bah oui.
Mais
oui.
Mais comment?
Non, non, j'étais dans tout autre chose, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'étais vraiment dans tout autre chose. Je vous demande pardon. Je vous rappelle les principes pour la vie contemplative. C'est très simple. Chaque soir, quand vous vous endormez, vous demandez au bon Dieu et vous lui dites : je désire voir demain dans mon oraison quelque chose de substantiel et de surnaturel à l'intérieur de ta vie, de tes mystères. Je veux voir Dieu, je veux comprendre, par exemple, le mystère de compassion de Marie, à l'instant où il est actué dans l'Esprit Saint, après l'Assomption. Je veux voir ça. Je veux voir Dieu, de l'intérieur de Dieu. Le soir, il faut s'endormir avec une crie de désir contemplatif. Saint Jean de la Croix, docteur principal de l'Église pour l'oraison. Sinon, l'oraison du matin, il n'y aura pas plus que ce que j'ai exprimé comme désir le soir en m'endormant. Donc, si je m'endors sur ma comptabilité, l'oraison du matin, le lendemain, ne dépassera pas la contemplation du serpent qui bouffe la poussière. C'est Saint-Thérèse aussi qui rappelle ça, ce principe de Saint-Jean de la Croix. C'est le désir de contempler, le désir de voir. Je veux voir. Je veux rentrer dans la vie contemplative. Et bien sûr, il y a l'oraison aussi. Mais l'oraison, elle est ce désir, elle est cette véhémence. Cette véhémence. Jésus. Jésus ouvert. Le Père dévasté. L'amour éternel. Saint-Esprit, Marie, éternité. Voilà, pendant une demi-heure sans m'arrêter, je répète ces mots pour pénétrer ce qu'il y a à l'intérieur et les voir de l'intérieur. Et au bout d'un certain temps, ça y est, Saint-Esprit me fait voir ce qu'il y a. Si je l'ai désiré la veille, si, avec violence, j'y pénètre par des actes anagogiques de violence contemplative. Et c'est pas en m'affaissant, bien sûr, au niveau du serpent, que je risque de devenir contemplatif. La contemplation, c'est une contemplation spirituelle, vous voyez, c'est pas du tout une contemplation charismatique. Hein? Et avoir ce désir, là, le soir, on sait qu'une messe est dite. On sait que la messe est dite, avec tous les papes, avec toutes les croix glorieuses, avec tout le mystère des enfants, avec les nos 200 milliards. Ces 200 milliards, on convoque avec ces 200 milliards, leurs 200 milliards d'âges gardiens. On pénètre en eux et on veut voir ce qu'eux peuvent voir. Et ce que le Saint-Père voit aussi dans le diamant. Et puis, on y rentre et on demande. Et ce que Melchisedec, le grand prêtre qui célèbre la messe avec nous, dans le miracle des trois éléments, on désire pénétrer si on pouvait voir. Mais si on pouvait voir, je vous assure, la vie spirituelle, la vie contemplative, c'est une vie spirituelle. Et la vie chrétienne est une vie spirituelle surnaturelle. Donc si on n'est même pas dans la vie spirituelle, comment voulez-vous qu'elle soit surnaturelle? Elle sera charismatique, donc ce sera sur la base de notre vécu psychique. Et du coup, on aura des révélations merveilleuses de Jésus, parce que Jésus est miséricordieux. Donnant des révélations, mais ce sera... Du surnaturel qui va venir sur du psychique. Ce ne sera pas contemplatif. Ce sera des messages. C'est très beau. Ce sera souvent magnifique, splendide, très beau. Quelquefois, c'est juste. Un tiers, ça vient du serpent qui est en nous. Un tiers, au minimum. Mais enfin, quand même, il y a du beau dedans. Il y a du bon miel. Pour l'âme, pas pour l'esprit. L'âme, c'est psychique. Pour l'esprit, c'est différent, c'est la vie contemplative. En vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux, des cieux. Les anges, en descendant comme ça dans la foi de Marie et de Jésus, produisant le mystère de la croix glorieuse, ont découvert, découvrent avec nous. Découvrent avec nous, je vous affirme. Depuis Chicoutimi, Michel découvre avec nous. Il découvre avec nous la vie contemplative chrétienne dans l'au-delà de ce voile qui se déchire, de la dévastation, de l'apparition de la Jérusalem spirituelle, dans l'indivisibilité contemplative de l'ange de Dieu et de l'homme et du roi. Le grand monarque, c'est un très grand contemplatif. Et je peux vous affirmer, il n'a reçu aucun message. Voilà. Si un jour vous voyez un bouquin disant « Je suis le roi, le grand monarque, voici mes messages. » Sûrement pas le roi. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand contemplatif. Je pense que pour ça, tout le monde en est convaincu. Des choses très intéressantes, mais c'est pas lui. Et on va célébrer la messe, voyez, avec le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, je veux dire, hein, avec le pape Jean-Paul II, on s'enfonce avec lui, les 264 prédécesseurs. Ah, et on suit Dieu dans l'agneau, là où Saint Jean est rentré avec Marie, dans le mystère de l'Apocalypse. Et les papes, du coup, suivent. C'est beau cette prière de Saint-Pierre qui dit, mais lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Jésus qui répond, mais s'il me plaît, qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Et tous les papes, dans la messe du soir, du Simeon, descendent avec nous pour suivre le chemin tracé par Marie dans le cœur de Jésus ouvert, ce lieu hypostatique, à l'intérieur de la dévastation de la paternité de Dieu. Et il descend. Et du coup, on comprend le point lumineux et contemplatif du royaume de l'Eucharistie. Et on y demeure jusqu'à la fin. Là, il n'y a aucune possibilité d'ombre. On a échappé à toutes les ombres possibles. Et on voit. Et les anges le voient avec nous. Et on descend avec le pape, avec la papauté, avec l'infaillibilité de l'Église, dans le saint dessein de Dieu qui est agneau. Dieu est agneau dans le Fils. Et le Fils est agneau parce qu'il fait ce qu'il voit faire au Père, parce que la fragilité du Père, dans l'acte de foi de Marie, le fait rentrer. Père lui-même dans cette même fragilité en lui, hein, pour l'épouser en leur spiration active, sans cette fragilité extraordinaire qui ne peut être comblée que par l'aspiration passive. C'est quelque chose d'extraordinaire et la foi de Marie, du coup, glorifiée dans son mystère de compassion, glorifiée, actuée par l'aspiration passive du Saint-Esprit, peut combler, j'ai précisément, cette fragilité qui reste fragile. C'est évident, mais elle est victorieuse. Et ça, c'est objet de contemplation. Et c'est la messe du soir qui permet, qui nous donne cette petite goutte de lumière contemplative qui nous permet d'y pénétrer, d'y introduire et de le voir. Et ça devient notre seconde nature. Notre vie contemplative va devenir notre seconde nature, notre nouvelle nature, notre vie normale. On va avoir une vie chrétienne dans la Jérusalem spirituelle qui vient. On va avoir une vie chrétienne, je vous promets. Ah, moi, je ne m'y suis pas encore mis, donc je ne m'y mettrai jamais. Non! Je vous demande pardon. Je ne devrais pas faire de méditation comme ça. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. On le fait et puis c'est tout, on verra bien. C'est bien d'avoir mal, hein. On a mal. C'est pas mal, hein, d'être malade, et d'avoir mal et tout ça. Je trouve que c'est bien, moi. C'est mieux quand on est en bonne santé, je trouve. Enfin, c'est pas spirituellement, je veux dire. Moi, j'aime bien. Mais... D'accord, c'est pas. Mais être malade, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment mal. Enfin, c'est bien. Finalement, c'est pas désastreux, c'est très bien. Parce que je dis mal à venir de Marie. Je trouve ça très bien.
Faire 10 km, on n'est pas bien ça.
Vol, 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 vol.